Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Le grand romancier victorien Dickens. Oui, mais par chance, pour nous lecteurs, il y en a d'autres. En particulier, l'auteur de Barry Lyndon, du livre des snobs, de la foire aux vanités, etc. Né aux Indes, un anarchiste joyeux, un moraliste, un rebelle, un humoriste, un désabusé, un pessimiste triste, ne cherchez plus. Écoutez en nouvelle diffusion Une vie, une œuvre, proposée pour la première fois sur France Culture le 11 février 2007.
Une vie, une œuvre. La foire aux vanités est une place où l'on rencontre toutes les vanités, toutes les dépravations, toutes les folies, où l'on se coudoie avec toutes sortes de grimaces, de faussetés et de prétentions. C'est que, voyez-vous, on est tenu de dire la vérité autant qu'on la sait, sous les grelots de la folie comme sous la toque du sage. Toutefois, avec un tel but, on peut rencontrer sur sa route des choses fort désagréables à répéter.
William Sacré, 1811-1863, par Françoise Esteb et Annie Douel.
Le frontispice de Vanity Fair s'ouvre avec une double image, celle d'un grand échalas, une sorte d'arlequin, qui représente peut-être le narrateur, qui représente sans doute Thackeray, un grand échalas d'arlequin allongé, en train de se dévisager dans un miroir, sauf qu'on s'aperçoit que le miroir est brisé. Ensuite, il y a un autre moment, une sorte d'autoportrait, petite vignette, drôlatique au possible, sauf que, voilà, c'est Thackeray en autoportrait, en clown avec la marotte, le sceptre et la marotte, en clown triste.
Je vous avertis donc, mes bons amis, que je vais vous conter une histoire où vous rencontrerez les intrigues les plus atroces et les plus ténébreuses. Et j'en ai aussi la confiance, tout ce qu'il y a de plus attachant en fait de crime.
William Sacré est essentiellement connu aujourd'hui du public pour deux grands romans, Barry Lyndon, 1844, que Stanley Kubrick a magistralement transposé au cinéma, et Vanity Fair, 1848, monumentale fresque de la société victorienne, qui, en son temps, apporta à l'humble journaliste Sacré la gloire et l'aisance matérielle. Entre ces deux romans, ses chroniques satiriques sur les snobs, publiées dans Punch et réunies dans le livre des snobs, car Sacré est l'inventeur du snobisme, ses chroniques lui avaient déjà attiré les faveurs du public. William Makepeace Sacré est né en 1811 à Calcutta. Il appartient à une famille de fonctionnaires britanniques au service de l'Empire. Sa vie sera assombrie par des drames familiaux, la perte de son père, tout jeune enfant, puis le départ pour l'Angleterre à 6 ans et l'éloignement de sa famille, des années de pensionnat où il fait office de souffre-douleur, enfin, plus tard, la démence incoercible de sa jeune épouse irlandaise qui le condamnera à une vie solitaire. Sacré a donc plus ou moins bien gagné sa vie dans le journalisme et il a énormément écrit. Nouvelles, récits, chroniques satiriques, textes parodiques, contes de Noël, critiques artistiques et littéraires, récits de voyage. Il a écrit des romans historiques, de grandes fresques sociales, un roman autobiographique, Histoire de Pen Dennis, qui vient d'être publié aux éditions Coda. Et tout au long de sa vie, il a produit des textes burlesques, totalement loufoques, comme Ivanhoé à la rescousse, qui vient d'être publié par le Castor Astral. Donc on le voit, une abondance de création, mais une unité de ton dans tous les registres de l'ironie. Au-delà de la satire acérée, de l'hypocrisie et des mœurs de l'époque victorienne, Sacré démonte l'origine individuelle des maux de la société. La vanité, l'ambition, l'égoïsme, l'argent, les fausses valeurs, les fausses gloires. Et c'est en cela que sa dénonciation reste très actuelle. Mais Sacré était un homme trop victorien, trop pénétré des préjugés de son temps, quelquefois il en est un peu désagréable, pour être un véritable rebelle. C'est essentiellement un homme désenchanté par la nature humaine qui a pu écrire ces lignes « Le bonheur n'est qu'un rêve, le plus intangible de tous. La vie est un songe inutile. L'amour, comme l'ambition, aboutit à une déception fatale. Parfois, je me demande à quel siècle j'appartiens, écrit William Thackeray. Suis-je du 18e, suis-je du 19e? Je passe mes journées dans l'un et mes soirées dans l'autre. Alors, William Thackeray, un esprit classique, Marc Porré, un écrivain dans la lignée des romanciers du 18e siècle.
C'est un Janus bifrance. C'est quelqu'un qui regarde dans les deux directions. Il est à la fois de son temps, c'est-à-dire tellement victorien. C'est un des géants du roman victorien. Trollope disait « c'est le plus grand d'entre nous, c'est le meilleur d'entre nous », sans doute parce que Trollope avait choisi d'inscrire ses pas dans ceux de Carlyle. Était-il vraiment le plus grand? Il est en tout cas le contemporain capital de Dickens. Donc là, il y a aussi beaucoup à dire là-dessus, sur cette relation ou cette rivalité entre les deux. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui, effectivement, ne se sentait pas en adhésion profonde avec son temps, qu'il se plaisait à fustiger, dont il stigmatisait les dérives, les vanités. C'est quelqu'un qui, effectivement, de tout son être, je crois, était attiré par le XVIIIe siècle, par les grands prosateurs, les grands essayistes, les Steele, les Addison, qu'il vénérait par-dessus tout, adepte d'une écriture claire, vraiment lisible, l'écriture, oui, voilà, la belle écriture classique. Et puis, ces grands modèles, pour ce qui est de l'écriture des romans, ce sont les romanciers du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les Fielding, les Swift, surtout Fielding, Henry Fielding, n'est-ce pas, l'auteur de Tom Jones, mais aussi l'auteur de Jonathan Wild, qui est véritablement son maître. C'est-à-dire donc, je dirais que Thackeray est quelqu'un qui est vraiment partagé, qui ne peut pas adhérer pleinement au siècle qui est le sien, qui est toujours nostalgique, qui a une sorte de mélancolie. C'est aussi la mélancolie de l'humoriste, car Thackeray est un des plus grands humoristes anglais qui soit. Mais oui, je dirais que son siècle de référence, peut-être de préférence, c'est le XVIIIe siècle. Mais par ailleurs, bon, voilà, il y a des traits qu'il partage avec nombre de ses contemporains victoriens.
Mais lesquels ?
Par exemple, l'aptitude à pontifier, c'est-à-dire à moraliser, à être le grand moraliste. On ne peut pas être romancier au XIXe siècle sans être moraliste. Donc il faut prendre la parole et donc, voilà, ces romans sont pleins d'une voix narrative ou d'une voix auctoriale, on ne sait trop, qui prend à partie le lecteur et puis qui lui donne des leçons, qui chapitre tel ou tel de ses personnages et qui effectivement fait tout pour voilà, souligner ce cas de morale ou d'amoral ou d'immoral, la carrière de tel ou tel de ces créatures.
L'écrivain du présent récit, désirant donner la preuve de sa déférence aux susceptibilités de l'usage, ne fera voir la dépravation que sous son jour léger, coquet, aimable et séduisant, de manière à ne blesser la délicatesse de personne. Un public délicat et poli ne pourra souffrir qu'on lui présente une description du vice dans sa laideur native, tout comme une Américaine ou une Anglaise aux principes sévères et inflexibles se récréera toutes les fois que le mot « culotte » viendra blesser ses chastes et candides oreilles.
Là, il s'agit de Becky Sharp, il s'agit d'un épisode de la carrière dissolue de Becky Sharp, sur lequel il a choisi de passer discrètement, c'est-à-dire que ce sont une des omissions savantes, très victoriennes, parce que bon, il ne faut pas trop s'étendre sur le sujet. Et il nous explique donc pourquoi il a choisi de faire silence sur, et pourquoi surtout il a choisi de composer avec les respectabilités. Effectivement, c'est quelqu'un qui, malgré tout, quoi qu'il en ait, s'est trouvé victime des conventions. Et donc, voilà, quelque part, il est plus respectable qu'un Dickens qui, certes, avait ses côtés sentimentaux et autres, mais n'était peut-être pas empêtré dans la même déférence par rapport à la respectabilité. Alors, je vais attraper mes lunettes. C'est le passage où il compare Becky à une sirène. Et il nous dit pourquoi elle est enchanteresse, pourquoi elle déploie tous ces sortilèges et pourquoi une sorte d'automutilation du romancier qui dit voilà, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu vous montrer tout le côté sordide, ce qu'il y a sous l'eau, j'ai choisi de ne pas le faire. Ça s'appelle a vagabond chapter, c'est-à-dire chapitre vagabond. C'est-à-dire chapitre un tempestif, enfin je veux dire, hein, qui est à sa place sans l'être. I defy anyone to say that our Becky, who has certainly some vices, has not been presented to the public in a perfectly genteel and in inoffensive manner. In describing this siren, singing and smiling, coaxing and cajoling,
aucun de nos lecteurs ne pourrait jusqu'ici accuser Becky, qui certainement n'est pas un dragon de vertu, d'avoir froissé en rien la bienséance dans ses formes extérieures. Et l'écrivain prie ses lecteurs de lui dire si jamais une seule fois il lui est arrivé de manquer aux convenances, et si dans la description de cette sirène à la voix enchanteresse, aux sourires trompeurs, aux irrésistibles séductions, aux artifices pleins de grâce et de coquetterie, nous avons fait paraître à la surface de l'eau les écailles hideuses du monstre. Non, non, jamais. C'est aux gens avides de pareils spectacles de plonger leur regard dans la transparence de l'onde pour contempler à leur aise les contorsions et les replis de cette queue visqueuse et gluante qui s'enroule autour des eaux broyées et des cadavres palpitants de ses victimes.
William Sacré fait souvent référence dans ses écrits, Laurent Bury, à un art sincère et viril. Alors c'est certainement en opposition au sentimentalisme un peu larmoyant des victoriens, puis peut-être également à l'emphase romantique, mais tout de même, cette notion de virilité dans l'art, comment doit-on le comprendre ?
Écoutez, sincère et viril, je pense que ce sont deux qualités qui caractérise le gentleman victorien, et je pense que c'est sans doute pour ça que Thackeray s'en les revendiquait, puisque peut-être on pourrait justement trouver que cette image du gentleman, c'est l'une des caractéristiques récurrentes de son œuvre. Certainement, on a tendance à retenir l'aspect surtout satirique, on retient les personnages qui sont des personnages plutôt malfaisants, et sympathique à la fois, mais il y a aussi une part importante de son œuvre qui consiste à essayer de proposer une image du vrai gentleman, ce que serait l'homme idéal, mais un homme à la fois ordinaire, quelqu'un qui ne serait pas un héros, puisque régulièrement Thackeray refuse le héros, il refuse la notion de héros. Vanity Fair, c'est un roman sans héros. Et justement, le gentleman, c'est celui qui ferait preuve de ces deux qualités primordiales, à la fois virilité et sincérité. C'est un personnage que Thackeray a essayé de proposer à plusieurs reprises, dans des romans qui maintenant sont un peu moins lus, puisque justement on préfère les méchants aux gentils. Et donc ces personnages de gentlemen, on en voit par exemple dans un roman qui est quelquefois considéré comme, sinon le meilleur, du moins un des meilleurs, qui s'appelle Les Newcomes, avec le personnage du colonel Newcome, qui est une sorte de gentleman qui a toutes les qualités qu'il faudrait avoir.
Les Newcomes, c'est un ouvrage qui date de quelle époque ?
Qui date de 1852-53, si je ne m'abuse. C'est un très gros roman qui n'est pas disponible en français actuellement, malheureusement. C'est un roman qui porte comme sous-titre « Mémoire d'une famille très respectable ». Alors c'est un roman très long, très foisonnant, avec énormément de personnages, où l'aspect satirique est beaucoup moins important que dans Vanity Fair. C'est un roman de la deuxième partie de la carrière de Thackeray, après Vanity Fair, dont on peut considérer que c'est un peu le pivot qui marque, il y a un avant et un après dans la carrière de Thackeray.
C'est une fresque sociale ?
Oui, on peut le voir comme ça, effectivement, puisqu'il y a des personnages qui appartiennent un peu à tous les milieux, des plus aristocratiques jusqu'aux moins favorisés, même si il n'y a quand même pas vraiment beaucoup de personnages appartenant aux classes les plus laborieuses, ça reste plutôt marginal. Comme je l'ai dit, c'est un très très gros roman. Il faut voir qu'à l'époque, les romans étaient publiés par numéro mensuel, et la publication pouvait quelquefois durer jusque 2 ans. Ça a été le cas pour plusieurs romans Thackeray. Donc forcément, ce sont des romans très épais, avec une foule de personnages, et c'est souvent d'ailleurs l'intrigue qui laisse un peu à désirer dans ses romans. Thackeray s'intéressait davantage aux personnages qu'à l'intrigue proprement dite, sauf pour Vanity Fair, qui fait exception, et c'est sans doute pour ça aussi que c'est resté le classique que c'est toujours. Souvent, Thackeray se contente justement d'aligner les anecdotes liées à différents personnages sans peut-être se soucier assez de la construction du roman proprement dite.
Marc Poré.
Toute sa vie ressemble peu ou prou à la carrière du parfait gentleman, simplement avec ça et là quelques couacs ou quelques petites failles ou quelques petits écarts par rapport à ce qui serait une carrière exemplaire. Commençons par sa naissance. Je tiens à rappeler qu'il est né à Calcutta, il est né en Inde. Il n'est pas le seul, Kipling aussi, plus tard George Orwell, entre-temps Saki, autrement dit Munro. Je trouve que ces romanciers qui sont nés ailleurs, en l'occurrence en Inde, son père était un fonctionnaire, voilà,
de l'Empire. Mais il y a passé très peu de temps,
oui,
puisqu'il est parti.
Mais comme Saki, pas plus.
Est mort quand il avait 3 ans.
Son père est mort quand il y avait 3 ans. Il y a cette belle anecdote quand il rejoint l'Angleterre à 5 ans pour aller s'enfermer dans une école qui lui laissera des souvenirs atroces, comme pour Kipling. Il passe par l'île, par Sainte-Hélène, là où Napoléon est en exil, et puis on lui dit voilà où est le monstre, hein, qui se repaît quotidiennement de 3 chèvres et qui pourrait bien manger tous les petits garçons anglais. Fin de la parenthèse. Mais je veux dire par là que Thackeray est quelqu'un qui, de par sa naissance, est étranger. Sa famille anglo-indienne aura toujours fait l'objet d'une forme d'ostracisme de la part de la bonne société. Et je trouve que Thackeray est quelqu'un qui se pose la question du comment appartenir à une société qui peut-être vous rejette ou vous a rejeté en tout cas. Et quand on est comme ça, de naissance étrangère, hors métropole disons, on a, je crois, on développe un regard particulièrement acéré, particulièrement aiguisé sur ce qui constitue, ben voilà, hein, la raison d'être de la nation mère. Et je trouve que cet art qu'il a de disséquer le snobisme de ses concitoyens, il le tient peut-être de cette position un peu excentrée qui était la sienne.
Voilà comment, dans notre pays qui se dit libéral, on se livre à l'adoration de la pairie. Un homme devient colossalement riche. À la suite d'un ministre, il se livre avec succès à 1000 petits tripotages. Il gagne une bataille. Il conclut un traité où, en légiste habile, il s'est encaissé de gros honoraires et trouvé ainsi le chemin du banc de la reine. Le pays le récompense alors en lui accordant une couronne d'or, rehaussée de plus ou moins de feuilles et de fleurons, et le comble par-dessus le marché des titres et dignités qui conviennent à un législateur. Vos mérites sont si grands, dit la nation, que vos enfants seront appelés pour leur part à régner sur nous. Qui s'aviserait de supposer un seul instant que votre fils aîné puisse être un imbécile? Nous tenons vos services pour si considérables que nous voulons que vos honneurs soient réversibles sur sa tête quand la mort fera le vide dans vos nobles chaussures. Si vous êtes pauvre, nous vous donnerons assez d'or pour que vous et les aînés de votre race puissiez vivre à jamais au sein d'une grande opulence. Nous voulons que dans cet heureux pays, il y ait une caste privilégiée à qui reviennent partout le premier rang, partout les gros morceaux et les bonnes aubaines dans les faveurs et les petits trafics du gouvernement. Vos enfants, tout naturellement, exerceront sur les nôtres la souveraine puissance. Comment empêcher la snobocratie avec des institutions nationales qui semblent n'avoir été faites que pour sa glorification? Comment empêcher toutes ces échines de se courber devant les lords? C'est la boue dont nous sommes faits qui le veut ainsi. Où est l'homme capable de résister à cette violente tentation? L'état de notre société veut que le dernier manant soit aussi snob dans sa bassesse que le noble lord est snob dans son outrecuidance.
Il
Il a vécu des années quand même extrêmement difficiles avant de parvenir à la notoriété, puisqu'il était journaliste, il a acheté un journal, ça n'a pas marché. Ça a été une partie des raisons de ses faillites. Ensuite, il a été correspondant de presse, il a écrit dans beaucoup de journaux, dans des journaux satiriques, mais il a vraiment, au début, mené une vie très, très humble de journaliste sans renom.
Très obscur. Il a dû littéralement faire ce que, en anglais, on nomme le pot boil, c'est-à-dire pour faire bouillir la marmite, pour nourrir ses filles. Le déclic dans son existence, c'est effectivement la banqueroute d'une banque en Inde dont dépendait la fortune familiale. À partir du moment où la banqueroute est prononcée, il sort d'une sorte de transe, il sort d'une sorte d'oisiveté prolongée. Jusqu'à présent, il n'avait rien fait, mais le voici obligé, par la force des choses, et le voici obligé de gagner sa vie, et de la manière la plus obscure qui soit, je veux dire la plus tâcheronne, la plus besogneuse, la plus travailleuse. Il se fait journaliste, il se fait plumitif, il se fait gratte-papier, il déploie une énergie monumentale. Il écrit dans toutes sortes de publications, notamment dans Punch, mais aussi dans Fraser's Magazine.
Et il dessine aussi.
Et il écrit sur toutes sortes de sujets, je vais y venir. Il écrit sur toutes sortes de sujets, la littérature bien sûr, mais aussi l'art, la peinture. À un moment, il a songé à se faire peintre. Il a pris des cours de dessin à Paris, vous le laissiez entendre. C'est quelqu'un qui aura toujours choisi d'illustrer ses propres romans, avec un certain talent, il faut le dire. C'est quelqu'un, pour la petite histoire, qui, alors, à l'époque où il était encore tâcheron, il est allé proposer ses services à Dickens comme illustrateur. C'est quelqu'un qui, avant même de commencer une véritable carrière de romancier, est à la tête d'une production en termes de la simple quantité physique d'écrits produits, très victorien par ailleurs, ça aussi, ça défie l'entendement. Enfin, je veux dire, il y a tout un arrière-pays, il y a toute une masse de textes, dont des récits de voyage, notamment, genre dans lequel, paraît-il, il excellait. Il a fait ses armes.
Laurent Bury.
Thackeray a donné libre cours à son goût pour la caricature, mais surtout dans ses textes pour les magazines, surtout lorsqu'il collaborait avec Punch, le grand magazine de caricature anglaise. Il a notamment pratiqué le pastiche, au sens plutôt de parodie littéraire. Il a écrit toute une série de textes qui sont des caricatures de ce qui était à l'époque les romanciers les plus en vue, qui sont maintenant très oubliés, mais les textes peuvent rester tout à fait amusants à lire, même quand on ne connaît pas le modèle dont ils s'inspirent. Oui, la caricature, d'ailleurs, il l'a pratiquée. Il y a une caricature de Thackeray où il montre Louis XIV à la fin de sa vie se faisant peindre en grand monarque, où on voit à gauche l'habit, la tenue de cour de Louis XIV avec un manteau couvert de fleurs de lys, avec les chaussures à talons rouges. À côté, on voit un petit vieillard bedonnant et chauve. Et grâce à l'art du peintre, on arrive à mélanger les deux et on obtient un roi puissant qui impressionne ses sujets.
Elle est pas mal d'ailleurs, cette caricature est intéressante.
C'est un dessin de Thackeray lui-même.
Ah, oui,
donc,
oui.
En fait, je pense que justement, ça fait partie de cette dénonciation générale de l'hypocrisie et du mensonge qui va jusqu'aux sphères les plus hautes, et que c'est même travers cette même ambition, cette même cupidité qu'il peut dénoncer chez des individus comme vous et moi, là encore, auront des effets infiniment plus graves lorsqu'il s'agit de la cupidité, de l'ambition des souverains, des monarques, des empereurs.
Depuis les palais de Kensingtonia et de Belgravia jusqu'aux réduits les plus humbles de Brunswick Square, il n'est pas de famille dont les membres ne se plantent dans la queue plus ou moins de plumes de paon. Et tous, tant que nous sommes, nous autres oiseaux de basse-cour, nous mettons les plus grands soins à imiter la démarche orgueilleuse et hautaine, les cris arrogants et aigus de l'oiseau de Junon. Où êtes-vous, ombres aimables de Marat et de Robespierre? Quand j'ai devant les yeux le spectacle d'une société corrompue jusque dans ses sources les plus pures, et par quoi? Par le plus grossier fétichisme de la mode, je me sens le cœur aigri. Et s'il ne tenait qu'à moi, j'ordonnerais un abattis général de toutes les queues et plumes de pont de ce royaume.
Ces grands romans, d'ailleurs, ont été publiés de façon mensuelle, avec une livraison d'une trentaine de pages. C'était des sortes de feuilletons, finalement, que ce soit Barry Lyndon ou Vanity Fair.
Là aussi, ils se conforment stricto sensu à la façon de faire victorienne. À une exception près, je tiens à le dire, c'est Henry Esmond. C'est le seul roman, je crois pouvoir le dire, de Thackeray, qui n'a pas obéi à la logique feuilletonesque. Et cela se ressent, bien entendu, à la lecture, c'est-à-dire que Henry Esmond est un roman dont tout le monde se plaît à reconnaître, qu'il est puissamment construit, qu'il est articulé autour de trois vraies parties qui sont de vrais points culminants de l'intrigue. Elle n'était pas, à la merci des pressions des lecteurs.
Cette publication mensuelle peut expliquer le côté un peu pesant, tout de même, de cette architecture. Quelquefois, il faut revenir en arrière pour savoir exactement quelle est la généalogie des personnages, se dire... Bon, pour nous, à l'heure actuelle, c'est une lecture quelquefois un petit peu difficile, enfin un peu...
Oui, un petit peu, oui, voilà.
Lourde,
Lourde, oui, parce qu'on se laisse envahir, comme Thackeray se laissait déborder, par les détails. C'est-à-dire que Vanity Fair, je reviens à cet exemple-là, déborde de
personnages,
détails,
oui.
Déborde de personnages. Il y a une sorte de fouillis qui est indescriptible, mais qui en même temps... Vous savez, Henry James disait du roman victorien que c'était « a loose baggy monster », c'est-à-dire un monstre, une sorte d'attrape-tout, de fourre-tout, de grande poche dans laquelle on fourrait tout. Et donc, du coup, tout était plein, saturé. Et les romans, Vanity Fair en tout cas, est un de ces romans-là, saturé, bourré jusqu'à la gueule. L'intrigue se délite un peu, ça s'effiloche. Mais en même temps, bon ben voilà, il y a ce côté irrésistiblement victorien qui déborde d'humanité, qui déborde de vie. Alors, voilà, il y a toute une société entière qui est ressuscitée et je trouve qu'il y a un côté ethnologique aussi à revisiter ce magasin de curiosités.
Nous n'élevons pas nos prétentions jusqu'à vouloir prendre rang parmi les chroniqueurs de bataille. Notre place est marquée loin de la mêlée. Et nous y tenons. Pendant le branle-bas du combat, nous descendons à la cale pour y attendre héroïquement la fin de l'action. À quoi bon venir nous jeter à la traverse des manœuvres que de braves gens exécutent au-dessus de nos têtes ?
Vanity Fair, c'est un roman qui est construit autour de Waterloo, c'est-à-dire avant 1815, après 1815. Et en même temps, c'est un roman historique qui accomplit le tour de force. Alors là, pour le coup, il faut tirer son chapeau à Thackeray, qui accomplit le tour de force qui consiste à escamoter Waterloo au dernier moment, qui nous fait attendre, qui nous fait saliver, qui nous promet monts et merveilles, qui nous promet Waterloo, et qui, au dernier moment, comme un magicien, comme un illusionniste, voici que Waterloo nous est en quelque sorte escamoté. Waterloo n'existe pas dans le roman. On a avant Waterloo, on a après Waterloo, mais il y a une béance historique au cœur du roman. Et ça, c'est la façon, encore une fois, oblique, ironique. C'est un mot qu'on n'a pas encore parlé. Thackeray est un grand ironiste. C'est un humoriste et c'est un ironiste. Mais il y a une façon délibérément biaisée d'aborder l'histoire, d'aborder les genres, d'aborder le genre dominant à l'époque qui était a novel with a hero, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que de romans qu'on ne lit plus, qui ont disparu, mais où effectivement il y avait un héros qui prenait expressément comme modèle Napoléon. Et voici qu'on nous offre a priori un roman sans héros.
Nous connaissons tous par ouï dire ou par nos lectures le choc terrible qui, pendant ce temps, avait lieu à quelques heures de Bruxelles. Le souvenir de cette fameuse journée est resté gravé dans le cœur de tous les braves soldats qui, vainqueurs ou vaincus, prirent part à cette grande bataille. Faudra-t-il qu'une nouvelle lutte donnant la victoire à ceux qui pleurent encore leur défaite fasse succéder nos enfants à un héritage maudit de haine et de vengeance? Faudra-t-il ne voir jamais terminer ces massacres dans lesquels deux nations généreuses arrosent les champs de bataille du plus pur de leur sang? Depuis tant de siècles de lutte et d'égorgement, Anglais et Français n'ont-ils pas payé assez chèrement leur tribut à ce qu'on appelle le code de l'honneur? Tous nos amis se conduisirent en hommes de cœur dans cette grande journée. Tandis que les femmes agenouillées priaient loin du champ de bataille, les lignes inébranlables d'infanterie anglaise essuyaient et repoussaient les charges furieuses des régiments français. La fusillade, dont les roulements arrivaient jusqu'à Bruxelles, portait la mort au milieu des rangs ennemis. Ceux qui tombaient étaient aussitôt remplacés par d'autres, aussi résolus à faire leur devoir. Vers le soir, l'attaque des Français, si bravement conduite, si énergiquement repoussée, sembla se ralentir un peu. Ils semblaient délibérer pour savoir s'ils tourneraient leurs efforts d'un autre côté ou s'ils réuniraient leurs forces pour un suprême assaut. À un signal donné, les colonnes de la garde impériale gravissent les hauteurs du Mont-Saint-Jean pour débusquer les Anglais qui, tout le jour, s'étaient maintenus dans leur position. Cette imposante colonne, déployant ses mouvants anneaux dans la plaine, commença à escalader la colline sans paraître entamée par l'artillerie anglaise qui vomissait la mort du sein de nos bataillons. Déjà, elle attaquait le sommet du Mamelon occupé par les Anglais, quand soudain, elle se ralentit et hésita dans sa marche. Elle s'arrêta alors, faisant toujours face au feu. Mais enfin, les Anglais repoussèrent leurs agresseurs et conservèrent le poste d'où nul ennemi n'avait pu les déloger. Aucun bruit n'arrivait plus à Bruxelles. La lutte s'était engagée à quelques milles plus loin. D'épaisses ténèbres couvraient de leurs voiles la ville et le champ de bataille. Amélia adressa au ciel de ferventes prières pour son bien-aimé. Et Georges, couché sur la face, gisait, sans vie, broyé par un boulet.
Becky ne tenait pas absolument à mener une vie honnête et irréprochable, mais ce à quoi elle tenait, c'était à jouir de la considération qui en est la suite et qui ne s'obtient, comme on le sait dans le grand monde, qu'à la condition de s'être fait présenter à la cour en robe traînante avec plumes et diamants. Du moment où le lord Chambellan vous a remarqué au poinçon de la vertu, vous pouvez être mise en circulation dans le monde comme une femme de bonne alloi. Comme ces marchandises mises en quarantaine, qu'on ne laisse sortir qu'après les avoir arrosées de vinaigre aromatique. De même, il suffit pour plus d'une femme de réputation équivoque de traverser l'atmosphère royale pour se retrouver par la même purifiée de tout principe délétère et malsain.
Mais lorsque Sacré préconise un art sincère et viril, vous nous dites, Laurent Burie, que c'est en référence au gentleman. Mais justement, ce qu'il fustige à son époque, c'est le mensonge de cette époque victorienne.
Effectivement, le mensonge, l'hypocrisie, ce sont des choses que beaucoup de romanciers victoriens se sont plus à dénoncer. Mais en même temps, le mensonge de la part de Sacré, c'est un peu culotté de s'en prendre au mensonge, puisque lui-même n'a fait que porter des masques pendant toute sa carrière littéraire. Il n'a fait que prendre des pseudonymes, que d'avoir des identités d'emprunt. Il s'est toujours déguisé lui-même derrière différents personnages.
Mais c'est un jeu plus qu'un mensonge,
ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, il dénonce le mensonge, mais est-ce qu'on peut pas y voir aussi peut-être une sorte de fascination pour ces personnages qui construisent leur vie sur le mensonge, ces personnages qui sont des imposteurs professionnels? Bon, il y a Barry Lyndon, évidemment, mais même l'héroïne de Vanity Fair, Becky Sharp, est aussi une menteuse, quelqu'un qui s'élève dans la société à force de mensonges. Et malgré tout, on a quand même l'impression que Thackeray l'admire sans doute un peu, ou en tout cas, il ne l'admire pas moins, ou il ne la condamne pas plus que son l'autre personnage féminin de Vanity Fair, Amelia, qui elle est une héroïne entre guillemets, mais qui est complètement insipide, qui est une femme douce, gentille,
vertueuse
sans doute. C'est quelqu'un dont il n'y a pas grand-chose à dire, ni en bien ni en mal. Et au contraire, Becky Sharp est un personnage infiniment plus intéressant, infiniment plus riche, et qui, à la fin du roman, se retrouve, après avoir une ascension sociale qui lui a permis de gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères, se retrouve mise sur le même plan que l'autre personnage féminin. Alors qu'en fait, on soupçonne fortement que c'est une meurtrière, ça n'est jamais dit clairement dans le roman, mais tout l'indique de façon quand même assez nette. C'est quelqu'un qui est tout à fait condamnable selon la morale.
Mais séduit.
Voilà, qui séduit le lecteur, qui séduit sans doute son créateur aussi.
George avait fait préparer pour sa femme les toilettes les plus élégantes, les parures les plus nouvelles, mais la pauvre Amelia, une fois arrivée dans ce bal, qui acquit par la suite une si grande célébrité, ne trouva personne à qui parler. L'échec fut complet pour Amelia, et son mari s'en mordit les lèvres avec rage. Par contre, Rebecca obtint un véritable triomphe. Elle arriva à une heure fort avancée, sa figure était rayonnante, sa toilette d'un goût exquis. Son entrée fit sensation au milieu de ses grands personnages et tous les lorgnons se dirigèrent sur elle. Rebecca paraissait aussi à son aise que si elle se fût trouvée à la tête des pensionnaires de Miss Pinkerton pour les conduire au temple. La foule des élégants et des hommes à la mode, dont la plupart l'avaient déjà vue, faisait cercle autour d'elle. Plus de 50 cavaliers se présentèrent à la fois, se disputant l'honneur de danser avec elle. Pour la pauvre enfant, ce fut le coup de grâce de se voir accablée par Rebecca des protestations les plus tendres, des airs les plus protecteurs. Rebecca critiqua quelques détails défectueux de sa coiffure et de sa toilette et lui demanda comment elle avait fait pour se chausser si mal. Elle lui donna l'adresse de sa marchande de corsets, l'engageant à y passer le lendemain, puis elle fit l'éloge du bal. Il était charmant, surtout pour l'intimité qui y régnait. On ne voyait dans la salle que fort peu de visages inconnus. Elle se débarrassa en même temps de son bouquet et de son écharpe qu'elle laissa à côté d'Amelia et rejoignit au bras de George les groupes de danseurs. Les femmes seules, excellent à faire de si cruelles blessures. La pointe acérée de leurs traits porte un poison mille fois plus dangereux que les armes émoussées et pesantes de l'homme. La pauvre Amelia, dont le cœur ne connaissait ni la haine ni le dédain, était livrée sans défense aux mains de son impitoyable ennemi.
Ce qui est très intéressant, c'est l'art du romancier, à mon avis, chez Thackeray, c'est précisément que ces personnages sont extrêmement complexes, extrêmement nuancés. Ils sont composés de bien et de mal, il n'y a pas de personnages schématiques, y compris dans les personnages de deuxième plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du mal à les juger, on n'arrive pas à les juger. Parce que ceux qui sont vertueux rendent la vertu vraiment très rébarbative, et ceux qui sont corrompus sont séduisants et attachants.
Oui, à cela près qu'il y avait quand même justement cette volonté de proposer parfois des personnages de gentlemen qui sont normalement aussi proches de l'idéal que possible.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Dobbin dans le Vanity Fair.
Ou même Dobbin, c'est pas quelqu'un de très intéressant au fond. Effectivement, il est bien gentil, il fait ce qu'il faut à la fin, mais bon, c'est pas un personnage très fascinant à vrai dire. finalement, c'est quelqu'un dont la vie n'est pas non plus un modèle, puisqu'il est passé à côté de beaucoup de choses, qu'il a attendu des années avant de pouvoir épouser cette Amélia, dont il se rend compte finalement qu'il l'a beaucoup idéalisée et qu'elle était loin de mériter ça.
De toute façon, parmi les grands thèmes de Sacré, il y a le thème du mariage, qui est toujours un mariage, soit l'institution du mariage, qui est quelque chose de tout à fait répréhensible parce qu'il y entre des intérêts, l'argent, l'ambition, etc. Soit les mariages sont malheureux, c'est le fait de la nature humaine qui toujours déçoit.
Écoutez, c'est difficile à dire, Thackeray a effectivement dépeint très peu de mariages heureux dans sa fiction. Alors, il y a ça peut-être plusieurs raisons. Lui-même a eu un mariage assez désastreux. Il s'est marié avec une jeune fille dont il avait envie de devenir l'époux, mais il s'est rendu compte très vite que ce choix n'avait pas été heureux, puisque la pauvre femme est devenue folle très vite. Quelques années, ils ont eu le temps d'avoir deux enfants, enfin trois, dont un qui est mort-né ou mort très jeune, et la femme de Thackeray est devenue folle. Il a été obligé de la faire interner. Et il s'est retrouvé, en fait, dans une situation de veuve sans lettres, très vite. Il avait deux petites filles. Et il ne pouvait pas non plus se remarier, puisque sa femme était toujours vivante. Elle lui a survécu pendant de nombreuses années. Elle lui a survécu au moins 20 ans. Et donc, forcément, de son expérience personnelle, il n'avait pas une vision forcément très positive de la vie de couple. Toujours est-il qu'effectivement, dans ses romans, on trouve très peu de couples mariés et heureux. Le seul couple dont on peut imaginer le bonheur, c'est un couple qu'on ne voit pas, c'est ce fameux colonel Newcombe du livre qui s'appelle Les Newcombe, dont on sait qu'il est veuf et qu'il garde un souvenir particulièrement ému de sa femme, mais évidemment...
Parce qu'il est veuf.
Oui, peut-être bien pour ça. On ne la voit jamais, on en parle, mais on ne la voit pas. Et autour de lui, au contraire, on voit des couples qui ne sont unis que par l'intérêt, la raison, et qui n'ont aucune véritable affection.
Marc Porré.
Mais la deuxième épreuve, c'est quand il s'éprend de la femme d'un de ses meilleurs amis, avec laquelle il a une relation qui est platonique, à ce qu'on dit, et à laquelle il finit par renoncer, déchiré, je veux dire, la mort dans l'âme. Mais je veux dire que c'est quelqu'un qui aura connu des épreuves personnelles, des tragédies, qui n'en aura rien laissé paraître, qui aura toujours fait contre mauvaise fortune bon cœur, et qui avait cette forme d'élégance détachée, distanciée, l'élégance du désespoir, non, mais enfin l'élégance et la politesse de ne pas imposer sa misère et ses peines à son entourage. Quelqu'un qui, sans doute, aura pratiqué l'humour comme forme de parade et de thérapie par rapport, effectivement, à ces tragédies personnelles. Donc voilà, je le vois comme un géant des lettres anglaises, un colosse, mais un colosse au pied d'argile. Commençons par dire un colosse, parce qu'effectivement, physiquement, il faisait 1m92, c'était un personnage massif, et qui, encore une fois, aura beaucoup compté dans ce mi-temps du siècle, en 1847, quand sort... Vanity Fair, tout d'un coup le voici devenu l'égal de Charles Dickens, et ceci n'est pas rien. Selon ses propres termes, il le dit lui-même, I found myself overnight at the top of the tree, c'est-à-dire tout à fait en haut de l'arbre, là où, dit-il, continue-t-il, là où j'ai continué à me battre avec Dickens. Au moment où Dickens entreprend d'écrire un roman autobiographique, David Copperfield, que l'histoire a retenu. Bien sûr, Thackeray écrit son propre roman autobiographique, Pendennis. Mais qui se souvient de Pendennis, malheureusement? Il aura voulu faire ce qu'a fait Dickens avec Le Triomphe que l'on sait, des lecturing tours, c'est-à-dire que Thackeray prend son bâton de pèlerin et s'en va aux États-Unis à deux reprises pour aller porter la bonne parole, pour aller se produire en public. La première fois, c'est pour parler des humoristes du XVIIIe siècle anglais. On n'est pas surpris. Et puis la deuxième fois, c'est pour parler des Four Georges, c'est-à-dire les quatre rois Georges du 18e, auxquels il voue tant de haine.
Toilette de cour, composée d'une robe de velours épinglée vert pois,
avec des volants d'organdi jaune ajustés en tablier et rattachés par des agrafes de choux de Bruxelles. Le corsage et les manches garnis de tulle illusion capucine, le bas de la robe festonné de roses et persillé de feuillages, coiffure de jeunes carottes entremêlées de feuilles de choux. Lady Snobky. Sur l'estomac, en guise de broche, un hanneton d'émail sur une pivoine d'or. Coiffure, un oiseau de paradis sur son nid et une tête de méduse en ferronnière.
Comment vous qualifieriez Sacré Thierry Beauchamp ? C'est un satiriste, c'est un rebelle.
Le côté le plus rebelle de Sacré, à mon avis, vient de sa rectitude. C'est quelqu'un qui était capable de rester droit dans ses bottes, quelle que soit la situation. Et finalement, c'est peut-être le plus difficile dans l'existence, c'est la plus haute forme de rébellion. Sinon, du point de vue de ses idées, c'est pas un rebelle. C'est l'incarnation du bon sens, du bon goût, de l'honnêteté près de chez soi, en fait. Il s'en prend aux gens pas gentils de son milieu.
Une anecdote qui est étrange, je trouve, c'est qu'à la fin de sa vie, il se fait construire un manoir. Mmh. Ça, c'était très à la mode, mais c'est précisément cette mode qu'il fustige tout au long de son existence.
C'est vrai. Et je crois que ça inquiétait beaucoup pour ses deux filles. Il voulait leur assurer un avenir. D'ailleurs, sa fille aînée a repris le flambeau, puisqu'elle a été, à l'époque, considérée comme une bonne écrivain. Mmh. A publié plusieurs romans. Et il adorait ses filles, donc je pense que c'est vraiment pour leur laisser un patrimoine. Et il a une histoire familiale quand même très, oui, très curieuse. Dans ce tragique, d'ailleurs, il y a un aspect, je trouve, très humoristique, d'un humour très noir. C'est la première fois où sa femme tente de se suicider. Donc ils sont en bateau, ils partent vers l'Irlande, et elle se jette à la mer. Et tout ce que Sacré a trouvé pour guérir sa femme, c'est de l'emmener faire des cures thermales partout en Grande-Bretagne et en France. C'est dire si cet homme de bon sens n'en avait pas toujours quand ça concernait ses affaires domestiques.
Donc un des grands thèmes de Sacré, c'est précisément de s'attaquer à cette hiérarchie sociale qui est faite de mensonges, d'hypocrisie, de faux-semblants, de corruption. C'est ce qu'il dénonce en permanence à travers tous ces personnages, les mariages et toutes les institutions.
Oui, en même temps, c'est toujours le problème de romanciers victoriens dont on a l'impression que dans leur fiction, ils dénoncent beaucoup de choses, mais qu'au fond, ils sont quand même très conservateurs, ce sont pas des gens qui veulent dynamiter la société, ce sont pas des anarchistes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, dans l'ordre de la société victorienne, leur semblent laisser à désirer.
Donc pour vous, Laurent Bury, William Sacré, c'est plus un homme désabusé qu'un rebelle.
Je pense, oui, je dirais plutôt ça, parce que sa vie n'a pas été toujours très riante, disons, et je pense effectivement que peut-être ce serait plutôt la désillusion qu'il caractériserait.
Parce que Julien Green voyait chez lui un anarchiste joyeux et il parlait de son rire guillotine. Enfin, il disait qu'il avait un rire un peu swiftien, mais qui avait la tranquillité du bourreau, contrairement à Swift, et qu'il guillotinait à tous les étages de la société, du haut en bas.
Oui, ça, mais je me demande si ce n'est pas une perception assez moderne de Thackeray, puisque en son temps, quelqu'un comme Charlotte Brontë, par exemple, voyait en lui un moraliste, voyait en lui quelqu'un dont il fallait s'inspirer pour avoir une vraie vision morale de l'existence et de l'homme. Et donc, ça n'est pas tellement, finalement, peut-être le côté satirique, le côté mordant qui avait surtout retenu l'attention de ses contemporains, mais au contraire, l'aspect du donneur de leçons, quelque chose qui, maintenant, ne nous plairait pas trop. Mais c'est surtout peut-être ce côté-là qui, à l'époque, avait frappé le fait que c'était quelqu'un qui, comme vous le dites, en guillotinant, en décapitant les uns et les autres, montrait quand même par défaut, ce qui aurait été la marche à suivre, quel aurait été le chemin, le vrai chemin vertueux dont il estimait que c'était aussi son devoir de romancier de le montrer.
Mais lui-même n'a pas été très vertueux, du moins dans sa jeunesse, parce que il a des traits qui peuvent le rapprocher, par exemple, de Barry Lyndon. Il a été joueur, libertin, buveur. Il a dilapidé l'héritage de son père quand il est venu à Paris.
Oui, tout ça c'est vrai. Mais bon, c'est sa folle jeunesse dont il a dû se repentir par la suite. Et la différence entre les personnages qu'il crée et lui-même, c'est que lui-même peut-être n'est pas fier de ses erreurs passées. Les héros de Thackeray, souvent, soit mentent en dissimulant totalement leur passé peu glorieux, ou alors, au contraire, s'arrangent pour transformer des choses qui devraient être répréhensibles en titres de gloire.
La seule nouvelle de cour qui m'ait jamais causé du plaisir est celle qui me fit connaître le malheur arrivé à ce roi d'Espagne, qui fut presque entièrement carbonisé parce que le premier ministre n'eut pas le temps de commander au grand chambellan de prier le chef des huissiers de donner l'ordre au premier page de service d'avertir le premier valet de chambre d'informer la demoiselle d'honneur d'avoir à apporter un seau d'eau pour éteindre sa majesté.
Dans le livre des snobs, il s'attaque tout de même de façon frontale à la société anglaise. Là, il est vraiment d'une... Enfin, il est implacable et il dénonce l'ordre social et il dénonce l'esprit de la société.
Il a invité ses contemporains à amender leurs mœurs, mais rien de tout ça ne va finalement... dans le sens d'une remise en cause totale de la hiérarchie telle qu'elle peut exister. Donc, Thackeray dénonce peut-être, je dirais peut-être plus, des travers propres aux individus qu'à l'ordre social.
Thierry Beauchamp.
C'était un écorché vif et il sentait très très bien, il y a une grande sensibilité, il sentait très bien l'hypocrisie, la fausseté chez les gens. C'est un grand psychologue, hein. Je pense que ça va, une des qualités qu'on trouve dans ses romans, qui n'est pas forcément très exprimée dans les pochades, c'est un très fort sens psychologique. Et en un regard, il est capable d'arbitrer une situation ou de jauger un personnage. Et il avait horreur des dévots, des grenouilles de bénitier, et puis des ecclésiastiques. Par exemple, il critiquait beaucoup Swift, c'est étonnant. Alors que lui était un vrai, hein, un révérend, et il lui reprochait d'être un misanthrope, en fait. Thackeray, qui a souvent été qualifié de cynique, jugeait comme ça Swift, à mon avis, pour de mauvaises raisons, mais comme un homme prétendument de Dieu, mais qui n'était pas un homme de Dieu. Bon, il se trompait peut-être qu'à moitié, mais cela dit, il le jugeait surtout à cause de ses textes d'un humour extrêmement noir, comme les instructions à domestique ou lorsqu'il conseille aux Irlandais de manger leurs enfants quand ils crèvent de faim.
Le père de Berry, comme tant d'autres garçons nés dans une famille de la bonne bourgeoisie, avait été élevé pour faire un homme de loi. Il ne fait aucun doute qu'il eût occupé une place éminente dans cette profession s'il n'avait été tué dans un duel. Duel qui eut pour origine une vulgaire affaire de vente de chevaux. Après la mort de son époux, la mère de Berry vécut une vie qui ne put en rien donner prise à la médisance. Plus d'un homme qui avait séduit ses charmes lorsqu'elle était jeune fille tenta de nouveau sa chance lorsqu'elle se trouva veuve. Mais elle déclina toutes les offres de mariage, déclarant qu'elle ne vivrait désormais que pour son fils et pour la sainte mémoire d'un mari passé dans l'autre monde.
En
En même temps, Marc Porré, William Sacré choisit des personnages qui sont tout de même en marge. Par exemple, Barry Lyndon, c'est un aventurier cynique, libertin, menteur, joueur, buveur.
Voilà, oui, absolument. Il a tous les défauts et il a en particulier le défaut qui leur rend très cher aux yeux de ses lecteurs. Il a le défaut de se croire homme d'honneur alors que ce n'est qu'un gredin, ce n'est qu'un fripon de la pire espèce. Simplement, il croit... Il s'abuse, c'est encore un effet de cette imposture généralisée. Il s'abuse sur sa propre sincérité, sa propre vertu, sa propre grandeur. Il ne cesse d'appeler grand ce que nous, lecteurs, nous trouvons petit, nous trouvons mesquin, nous trouvons vil, nous trouvons sordide, nous trouvons monstrueux, même parfois, dans la manière dont il traite, par exemple, sa femme, hein, Lady Lyndon. Ce qui est drôlatique dans ce récit, qui encore une fois est un pastiche prodigieux, peut-être l'une de ses œuvres les plus abouties, les plus réussies, les plus techniquement parfaites, c'est un pastiche délicieux de ses romans du 18e. C'est un roman qui s'appuie sur cette fascination éprouvée par tous les lecteurs pour ce qu'on en appelait le Newgate Calendars. Newgate étant le nom d'une prison célèbre au 18e siècle. Tellement célèbre que tous les grands criminels, tous les grands assassins, tous les grands bandits qui sont passés par là, en quelque sorte, ont fait l'objet de petites biographies, de petites vignettes qui revenaient sur les hauts faits, les forfaits, comprenons, bien sûr, mais aussi les hauts faits montés en épingle de leur carrière dans le vice et dans le crime, et tout ceci était avidement lu par les lecteurs. Ça a même donné lieu à une école, à un sous-genre de roman qu'on appelle le Newgate Novel, c'est-à-dire ces romans qui choisissaient de revenir sur la carrière de ces grands bandits. Et Barry Lyndon s'inscrit dans ce cadre-là.
À la suite de cette extravagante aventure, Barry se trouvait libre une fois de plus. Libre d'embrasser lui aussi une carrière de joueur professionnel.
Rien ne va plus.
Bien résolu désormais et à jamais à mener une vie de gentilhomme. Il n'y eut bientôt plus en Europe une seule cour qui ne lui fût ouverte à lui et aux chevaliers. Ils se trouvèrent bien vite mêlés à la haute société où le jeu fleurissait et où les maîtres en cette science étaient toujours les bienvenus.
Sans le sou, j'avais toutes les richesses de l'Europe à mes ordres. Aventurier ? Oui, comme l'est un avocat de mérite ou un vaillant soldat, comme l'est tout homme qui fait fortune par lui-même. Ma profession était le jeu, et j'y étais alors sans rival. Je m'étais formé à la condition d'une vraie bête de combat. Un jour d'action, j'étais féroce et heureux. Hors du champ de bataille, je prenais tout le plaisir que je pouvais et n'étais nullement délicat sur la qualité ou sur la manière de me le procurer.
Chevalier, pourriez-vous m'avancer 5000 louis d'or, je vous prie?
Mais bien sûr, Lord Ludd.
C'est un pastiche, mais c'est aussi un roman d'aventure. Et le personnage principal, Barry Lyndon, n'est pas quelqu'un de méprisable. Si vous voulez, on n'arrive pas à avoir de l'antipathie pour lui.
Non, c'est un personnage qui force une sorte de pas de respect. Le mot est un peu gros, mais sans, il y a quelque chose chez lui d'attachant dans cette espèce de forfanterie qui est assez. C'est un hableur. C'est quelqu'un qui aime à se vanter de ses exploits mirifiques. C'est quelqu'un qui, comme tous les Irlandais, a le don de la parole. Et donc, depuis la prison de Fleet Street, où il tient ses mémoires, parce que, le terme de sa carrière dans le vice, c'est quand même la déchéance. Et voici qu'il nous raconte ses exploits, mais avec une sorte de verve, avec quelque chose d'allègre, qui fait que l'on adhère spontanément et que l'on retrouve cet esprit du 18e qui manque furieusement au 19e siècle. Cela étant, Barry Lyndon a été perçu par les contemporains de Thackeray comme une œuvre noire, comme une œuvre obscure. Et on pourrait dire que Stanley Kubrick, lors de cette adaptation géniale, qui est aussi une trahison géniale comme toutes les grandes adaptations, Kubrick aura tiré le roman du côté d'une certaine noirceur d'une part, mais aussi d'une certaine nostalgie, d'une certaine mélancolie, en accentuant l'aspect passif du personnage, alors que précisément ce que l'on aime chez Barry, Redmond Barry, c'est qu'il fait beaucoup de choses, hein, c'est qu'il a eu un appétit, qu'il a une force, c'est une force qui va, il le fait avec beaucoup de panache.
Barry fit l'apprentissage du feu dans une escarmouche avec une poignée de Français postés en arrière-garde dans un verger au bord d'une route que le gros des forces anglaises allait emprunter quelques heures plus tard. Bien que cette rencontre ne soit rapportée dans aucun livre d'histoire, elle fut un événement mémorable pour ceux qui y prirent part.
Je déteste la forfanterie, mais je ne pus m'empêcher de dire que je fis connaissance de très près avec le colonel des cravates, car je lui passai ma baïonnette au travers du corps et expédiai un pauvre petit enseigne si jeune, si mince, si fluet que j'aurais pu le dépêcher d'un coup de ma queue, je crois, au lieu de la crosse de mon mousquet avec laquelle je l'assommais. Je tuai de plus 4 autres officiers soldats et dans la poche du pauvre enseigne, je trouvai une bourse de 14 louis d'or et une bonbonnière en argent et le premier de ces cadeaux me fut fort agréable. Si les gens voulaient faire leur récit de bataille avec cette simplicité, je crois que la vérité n'en souffrirait pas. Tout ce que je sais de ce fameux combat de Minden, excepté par les livres, est relaté ci-dessus. La bonbonnière d'argent de l'enseigne et sa bourse d'or. La face livide du pauvre diable quand il tomba, les vivats des hommes de ma compagnie quand j'allais le tuer sous un feu très vif, leurs cris et leurs imprécations quand nous en vîmes aux mains avec les Français, ce ne sont pas là en vérité de très dignes souvenirs, et il vaut mieux passer dessus brièvement. Les hommes deviennent de tels voleurs et de tels gredins à la guerre. C'est fort bien aux gentilshommes de parler de l'époque de la chevalerie, mais songez aux brutes affamées qu'elles menaient, les hommes nourris dans la pauvreté d'une ignorance complète qu'on habituait à s'enorgueillir de verser le sang. Des hommes qui n'avaient pas d'autre amusement que l'ivrognerie, la débauche et le pillage. C'est avec ces affreux instruments que nos grands guerriers et monarques ont fait leur œuvre de meurtre dans le monde. Et tandis que, par exemple, nous admirons en ce moment le grand Frédéric, comme nous l'appelons, et sa philosophie et son libéralisme et son génie militaire, moi qui ai servi sous lui et qui étais, pour ainsi dire, dans les coulisses de ce grand spectacle, je ne peux l'envisager qu'avec horreur. Que de crimes, de misère, d'esclavage pour composer ce total de gloire. Je me rappelle un certain jour, environ 3 semaines après la bataille de Minden, et une ferme dans laquelle entrèrent quelques-uns de nous, et comme quoi la vieille femme et ses filles nous servirent du vin en tremblant, et comme quoi nous nous grisâmes, et que bientôt la maison fut en flammes. Et malheur à l'infortuné qui, plus tard, revint chez lui pour retrouver sa maison et ses enfants.
Ce qui est le plus insupportable chez Barry Lyndon, c'est la façon dont il traite les femmes, dont il se joue d'elles, dont il les escroque, finalement, voilà. et dont il les martyrise.
Absolument. Le roman s'ouvre sur une déclaration qui est une misogynie insupportable, à savoir que tout le malheur de l'humanité et des hommes, surtout, vient de la femme. Alors vous me direz, la chanson est connue. Mais bon, je pourrais dire que là, Barry Lyndon renouvelle le genre, c'est-à-dire qu'à partir de ce fonds commun de commerce, la misogynie, faisant tout reposer sur la faute des femmes, à partir de là, eh bien, il tire quand même son épingle du jeu. Alors effectivement, la femme lui sert de tremplin vers la gloire, vers la fortune, c'est-à-dire que c'est parce qu'il épouse Lady Lyndon qu'il arrive à ses fins. Simplement, comme vous le disiez, là, pour le coup, il révèle de lui-même un aspect qui et peut-être un peu gothique, hein, là aussi, hein, dans la volonté de Thackeray de jouer avec les genres. Là, c'est la veine gothique qui remonte à la surface, parce que sur la fin du livre, il emprisonne sa femme pour obtenir d'elle quelque chose, et sa femme, pour le coup, en est réduite à tenir un journal. C'est-à-dire que Thackeray est en train de parodier Samuel Richardson, l'auteur de Pamela ou La vertu récompensée, l'auteur aussi de Clarissa, et on retrouve presque verbatim les mêmes traits, les mêmes expressions, la même façon de faire à la fin du roman. Dans les lettres, tout d'un coup, Barry Lyndon se mue en un roman épistolaire. On a droit aux lettres, on a droit au journal de Lady Lyndon. On est en plein, une nouvelle fois, dans le pastiche. C'est-à-dire que Thackeray est un écrivain qu'on a beaucoup de mal à apprécier si on n'a pas la perception. Comprehensive, pour le dire en anglais, c'est-à-dire complète, de l'histoire littéraire.
Il n'y a rien de tel, monsieur, que d'avoir à la maison une vertueuse bête de somme. Soyez-en sûr. Cela donne du piquant à nos jouissances dans le monde, croyez-en ma parole. Aucun homme n'a besoin de se restreindre, ni de se refuser un seul amusement à cause de sa femme. Au contraire, s'il choisit bien sa bête, il la choisira de façon à ce qu'elle ne soit point un obstacle à son plaisir, mais une consolation à ses heures d'ennui. Par exemple, j'ai la goutte. Qui est-ce qui me soigne ? Ayez un ami, monsieur, et que cet ami soit une femme, un bon cheval de bât qui vous aime. Si c'est un vaurien, elle jurera qu'il est un ange. Si c'est un brutal, elle ne l'en aimera que mieux pour ses mauvais traitements. Elles aiment cela, monsieur, les femmes. Elles sont nées pour notre plus grande consolation, pour notre plus grande commodité. Elles sont, moralement parlant, nos tire-bottes. J'étais souvent dans les vignes du Seigneur. Et dans cet état, quel gentilhomme est maître de lui. Peut-être, étant ainsi, ai-je pu traiter Milady un peu rudement, lui jeter un verre ou deux à la tête et l'appeler de noms peu complimenteurs. Je peux l'avoir menacé de la tuer, ce qu'évidemment il n'aurait pas été de mon intérêt de faire, et l'avoir, en un mot, effrayé considérablement.
Redmond, ne pourriez-vous cesser un moment de fumer ? Redmond ?
Lady Lyndon se retrouva bientôt vouée à occuper dans la vie de son époux une place à peine plus importante que les admirables tapis et tableaux qui servait désormais de cadre à son existence.
Marc Poré.
Moi, je mets ce roman assez haut pour une raison simple, c'est que d'une part, mais ça c'est peut-être la petite cuisine interne propre aux professeurs et aux enseignants, disons qu'on se sert de ce bouquin admirablement pour faire passer aux étudiants ou aux élèves la notion de ce que l'on appelle le unreliable narrator, c'est-à-dire le narrateur auquel on ne peut pas faire crédit. Le narrateur qui est persuadé de détenir la vérité, qui nous prend à partie et nous montre combien il est dans le droit chemin, alors que tous ses gestes montrent à quel point il ne cesse de quitter le droit chemin. Et c'est de ce divorce, de ce décalage qui est effectivement à la fois grotesque, bouffon, pathétique aussi, hein, le pathos que Kubrick a bien vu dans le roman et qu'il a mis dans son film. Mais il y a là quelque chose effectivement qui est plus c'est un exemple qui s'élève au-dessus de la conclusion morale par ailleurs. Il y a quelque chose chez ce personnage qui refuse de se laisser abattre par les événements, voilà, et qui trace sa route. C'est peut-être ça que Thackeray a à aimer. Et puis je dirais aussi que du point de vue de l'écriture, pour y revenir à cette question de du point de vue du narrateur, c'est intéressant de voir comment le roman a cheminé. C'est-à-dire en 1844, quand Barry Lyndon sort, c'est ce qui vaut à Thackeray hein, de sortir un petit peu de l'obscurité qui était la sienne jusque-là.
Son premier grand roman.
Voilà, c'est son premier grand roman. Le roman précédent, Catherine, est lui aussi un pastiche de Newgate Novel, comme je le disais tout à l'heure, mais pas aussi réussi, même si on commence à voir effectivement le même penchant, c'est-à-dire qu'il commence par vouloir caricaturer un genre, s'en moquer, mais en même temps pris à son propre jeu. Il s'éprend du personnage de Catherine, qui est aussi une grande criminelle dans son genre. Et donc, pour continuer sur Barry Lyndon, la première version de 1944 est précédée par un appareil ou par, comment dirais-je, par un cadre narratif qui le rend un peu fastidieux, c'est-à-dire que il y a un préambule, il y a une préface, il y a des notes, il y a tout un appareil voilà, qui encadre le récit et qui est censément un éditeur au sens britannique du terme, un certain George Savage Fitzboodle, un des nombreux pseudonymes de Thackeray, qui émet effectivement beaucoup les noms d'emprunt, qui aura beaucoup pratiqué le nom d'emprunt, la pseudonymie.
Pour quelle raison ?
Ah, sans doute que ça a quelque chose à voir peut-être avec ce sentiment un peu insecure, pour le dire en anglais, cette incertitude qu'il avait par rapport à sa propre identité. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose dans cette manie, dans ce penchant irrésistible de se forger toujours et encore des pseudonymes. Enfin, j'ai une liste là, elle est assez longue. Certains sont drôlatiques, certains sont bouffons, d'autres le sont moins. Mais il y a toujours quelque part la volonté d'apparaître masqué.
C'est une forme de fuite.
C'est une forme de fuite et c'est aussi une forme de jeu. C'est une mascarade dont il joue avec maîtrise, vraiment là aussi dans l'esprit du XVIIIe siècle.
La bravoure au combat d'Ivanhoé était prodigieuse. Et l'habileté avec laquelle il échappait aux mangonneaux, aux catapultes, aux boulets de canon, à l'huile bouillante et aux autres pièces d'artillerie dont se servaient les assiégés pour repousser les assaillants était époustouflante. À la fin du premier jour, Gourt et Wamba s'étaient habitués à extraire les innombrables flèches fichées dans la cotte de mailles de leur intrépide maître comme autant d'amandes dans un pudding. Car Ivanhoé avait mené plus de 12 charges impétueuses et avait oxy autant d'hommes de sa propre main, soit 2351, que le Plantagenet lui-même.
Vous avez traduit et présenté un court texte de William Thackeray, Thierry Beauchamp, que vous avez intitulé « Ivanhoé à la rescousse », qui est un prolongement parodique du roman de chevalerie de Walter Scott, et qui est un texte qui caracole, qui est mené tambour battant, qui est drôle, qui est brillant, qui est déjanté, qui est burlesque. C'est presque une sorte de bande dessinée, à tel point que l'on peut se demander si vous n'avez pas pris des libertés tout de même par rapport au texte original.
Honnêtement, j'en ai pris très peu. Je me suis simplement contenté de simplifier un peu la syntaxe, elle aussi caracolante, mais parfois acrobatique aussi, de Thackeray, qui est difficile à restituer dans un français moderne. Et je crois que je me serais pris les pieds dans des propositions relatives. En revanche, l'esprit du texte, il est là. Faut pas oublier que Thackeray, bon, il y a le côté romancier réaliste et somme toute assez sérieux, même si c'est quelqu'un qui fait preuve d'un humour très juste et souvent mordant. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus léger dans toute son œuvre de textes courts, de petits essais, de parodies, toute cette littérature qu'il a publiée dans des recueils comme les Paris Sketches, les esquisses de Paris, les esquisses d'Irlande, les miscellanées. Régulièrement, il a publié des recueils comme ça de textes. Et puis, à l'époque de Noël, il a publié, je crois, deux ou trois reprises, des textes assez courts, dont Rebecca et Rowena, La Rose et l'Anneau, qui sont des plaisanteries. Il cherchait tout simplement à amuser ses contemporains. Et dans le cas de Ivanhoé à la rescousse, dont le titre en anglais est Rebecca and Rowena, donc les deux personnages féminins principaux d'Ivanhoe de Walter Scott, qui a un sous-titre d'ailleurs, Romance Upon Romance. Donc on pourrait presque traduire finalement roman contre roman, puisqu'il s'agit non pas de, d'ailleurs de critiquer sévèrement le roman de Walter Scott, mais de s'insurger contre le fait qu'il estime que le personnage de Rebecca dans le roman de Walter Scott a été injustement traité. Je ne sais pas si les auditeurs se rappelleront de l'histoire, mais en gros on voit pendant les deux tiers du livre une femme admirable et sensuelle en même temps, la guérisseuse, la juive Rebecca, qui s'occupe du brave chevalier, et puis à la fin il épouse la froide et dévote Rowena. Pour des raisons purement sociales, finalement. C'est l'impression qu'on a en tant que lecteur. Ivanhoe, c'était le livre d'une génération, c'est le premier best-seller de la littérature anglaise, on pourrait dire, bien plus encore que Robinson Crusoe au siècle précédent. Tout le monde se demandait pourquoi Ivanhoe et Rebecca ne se retrouvent pas. Donc, il y a aussi le fait que Walter Scott, père du roman historique, expliquait que non, un chevalier chrétien ne pouvait pas épouser une juive au XIIe siècle. On se demande si c'était possible d'ailleurs au XIXe. Bref, il avait les mains liées. Le fait est que tous ces lecteurs se demandaient s'il n'y avait pas moyen d'arranger la situation. Et Sacré a gardé ça en lui pendant très longtemps, et il s'y est mis à deux fois avant d'écrire Ivanhoe à la rescousse, puisque en 46, si ma mémoire est bonne, le livre a été publié en 51, en 46, il avait déjà, pour le Fraser's Magazine, écrit une suite d'Ivanhoe sous forme de fausses lettres adressées à Alexandre Dumas, où il voulait convaincre Alexandre Dumas de reprendre le roman, en fait, de Walter Scott. Faut pas oublier que le but quand même de Sacré était de s'amuser à partir d'un roman très connu, c'est une parodie satirique.
Sacré s'amuse, mais en même temps, il y a une intention derrière ce texte.
Il y a une intention, c'est certain, comme enfin, il y a très peu de textes gratuits chez lui. C'est un homme très, très sérieux. C'était le gentleman typique du début de l'âge victorien, et avec toujours le souci d'être dans la juste mesure, dans l'honnêteté, la vérité. Il y a un côté presque pas pudibond, mais tout de même quelqu'un qui est capable d'exprimer des choses désagréable, de parler de toutes sortes de sujets. Mais au bout du compte, il se cache toujours derrière une sorte de sermon de révérend. Hein. Il a un côté très, très aussi protestant, sacré.
Et dans le... C'est pas très sensible, là, dans ce texte.
Alors, c'est pas très sensible, mais en apparence. Parce qu'en fait, ce que dénonce le texte de Sacré, c'est l'hypocrisie de la société bourgeoise de son temps, au début de l'ère de l'âge victorien, sous d'ailleurs l'influence d'auteurs comme Walter Scott. On assiste à ce qu'on appellerait aujourd'hui un revival du Moyen-Âge. Mais les Anglais se servent de ce Moyen-Âge mythique pour réécrire leur histoire et stimuler leur élan nationaliste, au moment où l'empire colonial est en train de s'étendre, de se construire et de se conforter dans ses certitudes idéologiques. Il faut savoir qu'à l'époque où Sacré écrit le livre, par exemple, il y avait des bals costumés qui se donnaient en armure, quoi, dans les mansions et dans les châteaux d'Angleterre. C'était une époque quand même assez curieuse. Les gens se faisaient construire ça depuis le XVIIIe siècle, à l'époque des romans gothiques. On se faisait construire des héroïnes dans son jardin. On s'illusionnait beaucoup sur ce qu'avait été le Moyen-Âge et on s'illusionnait beaucoup sur ce que l'on était. Donc parler d'Ivanhoe et d'écrire l'hypocrisie de personnages comme le roi Richard Cœur de Lion, etc., c'était parler surtout de l'hypocrisie, pourquoi pas, à l'époque, bon, c'était déjà la reine Victoria qui respectait certainement plus que les derniers rois Georges, mais il avait une haine, par exemple, contre le roi George IV. Il s'y met le parfait hypocrite qui prêchait d'un côté et pêchait de l'autre, enfin. Donc je pense que ça lui permet de libérer ses colères, en fait, ou ses frustrations.
Des seigneurs illustres tentèrent de poser les échelles contre les remparts du château. Mais ils furent accueillis par une pluie de flèches, ainsi que par un déluge de pierres. de bouilloires, de tire-bottes, de coffres, de vaisselle, de parapluies et d'autres ustensiles que les archers de la garnison firent tomber sur eux quand ils n'eurent plus rien d'autre sous la main. Le roi reçut un seau à charbon en cuivre sur la tête, puis une armoire en acajou, assez lourde pour écraser un bœuf, l'aurait probablement aplati si Ivanhoé n'avait habilement dévié sa trajectoire d'un léger coup d'épaule. Et toujours les deux braves avançaient, leurs ennemis se couchant sur leur passage comme les blés sous la lame de la faux.
Ce qui le marque, lui, c'est qu'à travers l'amour courtois et tous les récits de chevalerie, on donne une vision du monde chrétien de l'époque qui est très, très fausse. Et ce qui est très amusant dans sa parodie, c'est que il montre des chrétiens se vantant toujours d'être des parangons de vertu, etc., et commettant mais d'horribles exactions. On pense à Richard Cœur de Lion arrachant les dents des rabbins juifs pour les rançonner, obtenir de l'argent qui finance les croisades.
Mais dans le style lui-même, il va très très loin dans le burlesque.
Ça, c'est le plus étonnant. Quand on connaît bien la littérature, ce qu'on appelle la littérature irrationnelle, la littérature du non-sens à travers les cultures et les époques, on se rend compte que c'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a des précédents, et que, en particulier dans le folklore britannique, depuis le Moyen-Âge, il y a des écrits tout à fait stupéfiants, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Moyen-Âge français, les fatrasies, etc., c'est-à-dire les coqs à l'âne, et les histoires saugrenues. Ce qui est très intéressant avec Sacré, c'est que c'est quand même un homme très rationnel, par ailleurs, porteur de l'idée d'un common sense très fort, de la raison, et qu'en général, quand il fait preuve d'humour, c'est avec beaucoup de sophistication et de réalisme d'une certaine manière. Et dans ces pochades-là, il se laisse complètement aller, il crée des ruptures qui semblent directement empruntées aux contes d'exagération, par exemple, que l'on retrouve dans les histoires de Münchhausen, qui était contemporaine de sa jeunesse, qui ont eu un retentissement formidable dans la société anglaise du début du 19e siècle, au point qu'un autre auteur après, voyant ce succès, les a continués. Et dans Münchhausen, on a le principe du héros hableur et qui réussit quand il est pris dans une situation inextricable, qui par un tour de passe-passe, par exemple en se tirant les cheveux quand il est prisonnier d'une mare de boue, il arrive à se tirer de la boue. Mais on retrouve les mêmes principes dans l'histoire de Rebecca et Rowena, Ivanhoé à la rescousse. Et puis on trouve aussi un goût pour l'anachronisme. Alors ça, oui. c'est de la pure satire, parce que évidemment ses contemporains, quand ils parlaient du Moyen-Âge, mélangeaient tout et n'avaient absolument aucune idée de la vérité historique. Donc il lui était facile de mettre des parapluies là où il n'y en avait pas et toutes sortes de choses.
C'est presque un inventaire à la Prévert, par moment.
Et puis vous avez des techniques... on dirait aujourd'hui cinématographique, mais qu'on trouve déjà, par exemple, chez Stern, dans Tristram Shandy, où il y a des prises à partie du lecteur, une manière de faire du surcommentaire sur l'histoire, ou de s'arrêter dans la réalité temporelle du récit. On a dans le texte de Sacré, il y a des moments où on voit les personnages
qui ressuscitent
et qui vont boire une bière, comme si on était au théâtre.
Oui, il y a un côté dessin animé presque.
Et pantomime, qui était une forme de dessin animé.
Pourquoi me priverais-je de raconter, s'il me plaît de donner des détails affreux, la séance de courte paille qui désigna l'infortunée comtesse de Chalut comme plat de résistance des assiégés. Cette femme héroïque, après avoir pris congé des siens, ordonna que l'on mette de l'eau à bouillir dans l'énorme chaudron de la cuisine du château et que l'on y ajoute des oignons, des carottes, des herbes, du poivre et du sel, car elle tenait à faire une soupe savoureuse comme les Français l'apprécient. Quand tout fut prêt, elle embrassa une dernière fois ses enfants, monta sur un tabouret, sauta dans le chaudron et se laissa mijoter dans sa robe de chambre en flanelle.
On peut dire que c'est un texte complètement délirant.
Complètement.
D'ailleurs, vous le qualifiez de gagman.
C'est quelqu'un qui a le sens du timing. Et c'est pour ça que c'est un très bon gagman. Il a un sens de l'humour naturel, un sens de la satire et de l'idée juste qui est complètement incongrue au moment où elle tombe, mais qui en même temps répond à une sorte de nécessité comique. Il le fait très très bien. Ce qui est très curieux dans l'histoire de l'humour anglais, c'est qu'il a été à sa naissance, tel qu'il est formulé par les écrivains au départ, est formulé plutôt par des gens réactionnaires, qu'on qualifierait aujourd'hui de droite, enfin des bien-pensants, des religieux. Donc, et lui est très marquant pour ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à travers l'humour et l'énergie qu'ils ont à critiquer les aberrations des libéraux ou des gens qui veulent changer les choses, ils font preuve d'une fantaisie, d'un sens poétique et du merveilleux. C'est-à-dire des gens plutôt réactionnaires, mais qui deviennent quasi surréalistes par dénonciation de ce qu'ils estiment être surréaliste. Les textes sont tellement drôles au-delà de ce qu'ils critiquent. Il y a une telle fantaisie qui se dégage de ces textes qu'elle a fini par inspirer des gens qui étaient du point de vue complètement opposé. Et ce sont devenus des auteurs de chevet pour des gens qui étaient essentiellement des rebelles et des petits révolutionnaires plus tard, comme les Monty Python qui adorent cette littérature-là.
Vous considérez aussi, Thierry Beauchamp, que William Sacré est un être assez mélancolique. Alors, dans Ivanhoé à la rescousse, on a quand même du mal à voir la mélancolie, sauf effectivement vers la fin du court récit, dans le personnage d'Ivanhoé vieillissant.
Et puis dans l'introduction à son histoire, ce plaidoyer pour les héros vieillissants montre aussi de quel côté est son cœur. Il est du côté de la nostalgie, du retour sur soi. Et on a souvent dit de lui que c'était un romantique de la mémoire. Dans ce texte-là, ça appartient à cette catégorie de textes qu'il a écrits qui sont vraiment écrits et qui l'aidaient à rajeunir.
Simplement, à la mort de Thackeray, Dickens est chargé de faire la notice nécrologique et donc prononce un vibrant éloge de Thackeray. Il met notamment en avant quelque chose qui est très juste, me semble-t-il, c'est-à-dire la finesse et la subtilité des analyses psychologiques de Thackeray. Il reconnaît à Thackeray, outre le fait d'être un essayiste brillant, il lui reconnaît quelque chose qui est delineation of character, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette faculté de camper un personnage et de sonder les profondeurs de la psychologie et de l'âme. Et puis, Dickens ajoute une chose qui me semble être très juste, très bien vue. Dickens dit ceci, voilà, Thackeray aura tout fait pour feindre de ne pas prendre son art au sérieux. C'est-à-dire qu'il voit juste, je pense, Dickens, il voit chez Thackeray une sorte de détachement poussé jusqu'à un certain excès et donc une forme de manque de conviction. Il y a une incertitude fondamentale quant à la façon de se tenir dans son siècle, à la fois en être et en même temps ne pas y adhérer. Être incapable d'y adhérer fortement, avec des convictions. Ce qui manque à Thackeray, c'est un socle de convictions profondes. On rappellera que Thackeray meurt à 52 ans.
Il était profondément désenchanté.
Profondément désenchanté, sceptique, revenu de tout, sans illusion. Pessimiste. Et encore une fois, pessimiste, oui, profond, mais comme le sont les humoristes. Pessimiste triste, adepte. Pardon pour l'anachronisme, mais adepte d'un certain grotesque triste à la Flaubert. Et c'est souvent, au cours de Vanity Fair, que l'on a, sur le mode de la confidence, ces propos désabusés du narrateur qui, quand il n'est pas le montreur de marionnettes, quand il n'est pas le monsieur loyal de toute cette mascarade, est aussi tout simplement un spectateur du monde qui se promène pensif au milieu de tous ces bouffons et qui rentre chez lui, triste, profondément abattu, pour pleurer tout seul sur cette vanité qui l'entoure. Thank you.
Et maintenant, disons-le bien haut, vanitas vanitatum. Qui de nous est heureux en ce monde? Qui de nous arrive enfin au terme de ses désirs, ou quand il y parvient, se trouve satisfait? Adieu. Adieu, ami lecteur. Rentre maintenant dans la vie réelle, où tu verras se dérouler sous tes yeux l'histoire que je viens de te raconter.
William Sacré, une émission de Françoise Esteb, avec Thierry Beauchamp, qui a traduit pour le Castor Astral Rebecca et Rowena, sous le titre Ivanhoé à la rescousse, Laurent Bury, de l'Université de Paris 7, Marc Poré, de la Sorbonne Nouvelle. Texte lu par Olivia Bruno et Loïc Houdret. Extrait du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Mixage Marie-Dominique Bougot. Réalisation Annie Douel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 février 2007.